Et j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté.
Habiter chez toi. Alléluia. Même qu'il a déjà commencé. C'est ce que nous abordons ce matin, un thème tellement beau, tellement mystérieux en même temps, tellement surprenant qu'un Dieu que le ciel, l'univers et la terre ne peuvent pas contenir, ce Dieu-là décide de venir faire son habitation en toi. En chacun. Alléluia. Alors, bienvenue à ce culte en ce matin. Bienvenue dans cette église. Peut-être ceux qui sont là pour la première fois et tous ceux qui sont là de source vive habituellement. Je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Est-ce que la rentrée s'est bien passée? Les lycéens là, et les collégiens, ça va? Tu n'as pas eu envie de taper sur le prof dès le premier jour? Ça va? Tu te sens bien? Bon. Alléluia. Alléluia. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont là. Il y en avait quelques-uns là. Hier soir, il y avait surtout les ados. On a passé un très, très bon moment dans ce temps qu'on a eu avec ce thème où on veut vraiment que le Saint-Esprit habite comme il le désire. Alors voici le texte qui sous-tend ce que nous allons partager ce matin. Ton corps, 1 Corinthiens 6, 19, ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi et que tu as reçu de Dieu, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Dieu vient habiter chez toi. Alléluia. Alors, comment t'expliquer ça un peu mieux? Tu sais, avant que Jésus vienne sur la terre, il y a 2000 ans, les croyants étaient obligés, pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer, pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir lui demander quelque chose, tu ne pouvais pas faire ça au pied de ton lit comme tu le fais aujourd'hui. Dieu, tu ne l'invoquais pas comme ça. Tu étais obligé d'aller au temple. C'est au temple que tu entrais en connexion avec Dieu. Tu ne pouvais pas lui parler comme cela sur le trottoir ou dans le bus. Tu me diras, des bus, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et donc, dès que tu voulais rencontrer Dieu, je ne sais pas si tu te rappelles de Anne qui voulait demander un enfant au Seigneur. Et elle est allée au temple. Elle a passé un séjour, elle a passé un temps dans le temple pour pouvoir exposer à Dieu sa demande. Les gens allaient au temple. Si tu voulais rencontrer Dieu, il fallait, entre guillemets, aller chez Dieu, te déplacer pour aller chez lui. Et là, tu le rencontrais. Alors, quand je pense qu'il y en a qui, le matin, ont du mal à se lever et se mettre au pied de leur lit pour prier, je ne sais pas comment tu aurais fait hein, si tu étais à l'époque. Mais Dieu, un jour, a décidé de simplifier les choses. Un jour, le Saint-Esprit est descendu. Alors, qu'est-ce qui se rappelle à quel moment ça s'est passé? À la Pentecôte. Bien sûr. À la Pentecôte. Et c'est comme si Dieu disait, bon, ok, à partir de maintenant, je vais te simplifier les choses. Ce n'est plus toi qui vas faire le va-et-vient pour venir chez moi, retour chez toi, tu viens chez... Moi, je vais me déplacer et je vais aller habiter chez toi directement. Alors, quand Dieu dit chez toi, ce n'est pas toi, rue du Parc, 77 100 mots, hein, non. C'est chez toi, c'est-à-dire en toi, dans ton cœur, dans ta vie. J'habite dans ta personne. D'où ce texte où Paul dit, c'est ton corps maintenant qui est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un est d'accord avec ça, qu'il dise Amen. Alléluia. Tu es devenu le temple. C'est à la Pentecôte que Dieu a fait tout cela. Et donc, dès lors que quelqu'un se donne au Seigneur, tu deviens un croyant, tu deviens son enfant, tu lui donnes ta vie, le Saint-Esprit s'installe en toi et il est là en permanence. Donc, toi qui es là, qui aime le Seigneur, qui marche avec lui, le Saint-Esprit vit en toi constamment. H24. Tu veux lui parler, tu penses à lui, tu veux l'adorer, tu veux le prier. Pas de problème, il est déjà sur place. Alléluia. Tu peux t'adresser directement à lui. Il y a une autre relation que Dieu a instaurée entre le croyant et lui. Grâce au Saint-Esprit qui a été déversé. Mais quand quelqu'un nous dit, bon, je viens chez toi. Je ne sais pas pour vous, mais des fois tu dis, je viens chez toi, je viens chez toi. Je te dis, est-ce que j'avais fait la poussière dans l'entrée? Est-ce que j'ai pas laissé des chaussures, des chaussettes qui traînent dans l'entrée? Oh là là, le sèche-linge, je l'ai laissé près du radiateur dans le séjour. J'ai pas fait mes carreaux. J'ai pas fait les carreaux des fenêtres. La personne vous parle, mais t'entends même pas. Hein, t'as dit quoi? On y va là? On va chez toi? Ah oui. T'es troublé parce que t'es pas sûr que tout est tout à fait nickel pour pouvoir recevoir la personne. Alors, comment ça se passe quand Dieu vient habiter chez toi? Alors, déjà, il y a une parole dans Jean 4, 24. C'est quand ta femme samaritaine parle avec Jésus. Jésus lui dit, attends, il faut que je t'explique un truc. Il faut que tu saches que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, etc. Et Dieu dit tout ça. Jésus dit tout ça, explique tout ça à la femme samaritaine. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu se manifeste, quand il vient, quand il prend son, comment dire, son séjour, quand il s'installe en toi, quand il commence à se manifester en toi, quand il te touche, quand il agit, quand il change des choses en toi, tu vas ressentir des choses, tu vas peut-être même entendre des choses, voire même certaines manifestations quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit entre, des fois, la charge émotionnelle est tellement forte que ça peut arracher même des cris à certains. Il y a d'autres qui tombent par terre. Même moi, il est arrivé une fois que j'ai été affaibli en plein moment de louange. C'était à Paris. J'étais obligé pendant la louange d'aller m'asseoir. Et les gens ils se disent, Daniel, fais quoi là? Lorsque la présence de Dieu se manifeste, tu peux le vivre de différentes façons. Mais il y a un truc, c'est que tu ne verras jamais le Seigneur parce qu'il est esprit. Tu ne peux pas le cerner avec tes yeux. Dieu est esprit. Mais quand Dieu entre quelque part, on le sait assez rapidement. On sait qu'il est là. Donc quand il commence à agir en toi, quand il commence à prendre sa place en toi, dans la dimension dans laquelle on va l'aborder ce matin, tu vas t'apercevoir que forcément, il y a des résultats, il y a des fruits, on pourrait dire, il y a des choses qui changent, et tu sais qu'il est là. Tu sais que Dieu est dans la place. Amen. Vous êtes d'accord, hein? Quand il est dans la place, on le sait. On le sait. Alléluia. Si tu as donné ton cœur à Jésus, donc je disais, eh ben, Jésus, il est déjà dans la place, il a déjà pris un peu ses quartiers en toi. Alors, quand ça se passe, ça donne à peu près quelque chose comme ça. On va dire que la maison, c'est ta vie. Bon, on commence par m'embêter, me dire pourquoi dans ma vie, il y a un escalier. Hein? Bon, c'est un schéma, c'est une image. Alors, un peu schématiquement, on peut dire que la partie que tu vois en orangé, c'est un petit peu la partie que Dieu occupe quand il entre dans ta vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a pas toute la maison qui, pam, est remplie de sa présence. On aurait voulu que ça soit comme ça. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu t'aperçois que dans ta vie chrétienne, au fur et à mesure, ce qui est génial avec Dieu, c'est qu'il n'attend pas que tu aies tout réglé, que toutes les vitres, tous les carreaux aient été lavés. Il n'attend pas que toutes les chaussures aient été rangées dans la boîte à chaussures. Il n'attend pas que le sèche-linge soit rangé là-haut. Il n'attend pas que tu aies lavé la cuisine, déposé, changé la poubelle, déposé. Il n'attend pas que tout le ménage soit fait dans ta vie pour pouvoir dire, je commence à rentrer. Mais ce n'est pas parce qu'il est entré, qu'il est dans l'entrée, que l'entrée est en orange, que tu n'as pas besoin d'enlever la poubelle. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller faire les carreaux si tu ne les as pas encore lavés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Jésus, il t'honore tellement qu'il se dit, je commence à entrer, je l'aime trop pour rester dehors, même s'il y a des choses et du ménage qui doit être fait, de toute façon, je suis là aussi pour lui donner un sacré coup de main pour aller plus vite dans le ménage. C'est ça ce que tu ne savais pas. C'est que Jésus vient aussi pour te donner un sacré coup de main. Tout à l'heure, là, dans le petit dessin que Gaël nous a montré, on a vu que la petite, elle est arrivée avec un petit doudou, une petite peluche, etc. Et Jésus, derrière le dos, il avait une méga super peluche, super belle, etc. Que la petite, elle n'avait même pas encore vue, mais il fallait qu'elle se fasse le pas de foi de donner à Jésus la toute petite peluche minuscule qu'il fallait regarder. Il fallait qu'elle fasse un pas de foi pour que Jésus lui donne la vraie belle grosse peluche. Le ménage, c'est la même chose. Tu te dis, il faut que je déballe ça, il faut que j'arrange ça, etc. Tu pousses les vêtements dans l'armoire et tu essaies de le fermer, pouf, ça ne ferme pas. Pouf, ben Jésus, il est en train d'arriver, là, et pouf, tu n'arrives pas à fermer le truc. c'est bon. Tu fais ça un temps dans ta vie. Tu fais ça, il y a plein de choses, et puis tu appuies le truc, il ne ferme pas. Tu fais ça un temps dans ta vie. Jésus te regarde faire, et puis il est amusé, mais en même temps, il est... Bon, il... Et puis, à un bon moment, il te dit, mais pendant combien de temps tu vas bricoler le ménage comme ça? Laisse-moi faire le vrai ménage. Le ménage que je vais faire va donner un résultat beaucoup plus beau, beaucoup plus durable dans ta vie. Alléluia. Alors, pourquoi Jésus veut remplir à tout prix la maison? Pourquoi l'objectif de Dieu, c'est de remplir toute la maison? Lorsqu'on remplit quelque chose, automatiquement, monsieur de la Palisse t'en dirait autant, lorsqu'on remplit quelque chose, on le vide de tout ce qu'il y avait avant. Même une bouteille vide, quand tu la remplis, tu la vides de l'air, de l'oxygène, de tout ce qu'il y avait dedans auparavant. Même si tu dis que la bouteille était vide, je l'ai remplie, non, tu l'as vidée de l'air qu'il y avait dedans. Lorsque Jésus vient remplir un être, il le vide aussi de tout ce qu'il y avait auparavant. Alléluia. Alors ça veut dire quoi? Ben, s'il y avait de la souffrance, des frustrations, des blessures, des choses retenues, là, il va remplacer tout ça par sa guérison et sa restauration. S'il y avait des choses, des penchants, des mauvaises habitudes, des addictions, des choses que tu combattais avec plus ou moins de succès, tu nous retombais peut-être 150 fois. Ces choses avaient toujours raison de toi. Quand il rentre en toi, il fait de toi un vainqueur. Il va faire de toi un champion parce que tu vas avoir la victoire sur toutes les choses qui avaient la victoire sur toi auparavant. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, et là je donne qu'un tout petit échantillon, va entrer en toi pour pouvoir ôter ce qu'il y avait avant. Peut-être que tu te bats avec ton caractère, ta bouche va toujours plus vite que tes pensées. Et là, c'est un problème parce qu'avec ta bouche, tu te retrouves dans des situations compliquées, etc. À cause de ton caractère, il y a peut-être un peu de colère qui doit être enlevée, etc. Et Jésus, quand il rentre, il prend tout ça et il te donne son caractère à la place. C'est pour ça qu'il veut te remplir. Quand Dieu parle de plénitude, c'est de ça qu'il parle. Il veut prendre la place parce que ce qu'il y a avant n'est pas ce qui correspond au plan parfait qu'il a pour toi, au plan idéal, au plan d'épanouissement, au plan de réalisation, au plan d'accomplissement de ta personne. Tu fais de méga projets en tant que jeune, tu te dis « ouais, je vais faire ça, je vais faire telle étude, je vais prendre telle école, je vais passer tel concours pour être sûr d'être pris. » Et là, donc, l'objectif, ok. On va le voir un peu plus tout à l'heure. Mais dans la toute petite pièce des études personnelles, alors tu vois, c'est peut-être ici, là, tu vois, il y a ton bureau ici, là, c'est là que tu fais tous tes projets, que tu étudies, que tu passes, oh là, tu te couches tard, etc., etc. Ça, c'est la zone de préparation de ton avenir. Un jour, il faudra qu'elle soit en orange aussi. Amen, tu vois ce que je veux dire? Il faudra que Jésus couvre toute cette dimension de ta vie également. Et il te dit, même ça aussi, je veux le prendre. Je veux que tu me le donnes. Je veux le remplir. Et en le remplissant, c'est un peu, encore une fois, comme l'image qu'on a vue de la petite fille avec la petite peluche. Tes études et tous tes plans, tes projets sentimentaux, tu te projettes avec... C'est comme la petite peluche minuscule qui est derrière le dos de la petite fille. Mais Jésus, il a une super belle peluche professionnelle, sentimental, tout ce que je veux, tout ce que tu veux, il sait derrière son dos, mais il faut que tu fasses un pas de foi pour qu'il te le montre. Et quand il te le montre, tu dis « Seigneur, j'aurais dû te donner tout de suite. Cette grosse peluche-là, Seigneur, ça fait longtemps. Eh oui, ça fait 25 ans que c'est derrière mon dos. » Pardon, Seigneur. Il n'y a pas de souci. Alors, je peux te la donner maintenant, tu peux me la donner, ton petit truc minuscule là. Alors, lui, on ne sait même pas où il est caché, ton truc. Et on lui donne au Seigneur et il remplit tout. Merci à Gaël pour cette petite image de la peluche et de la grosse peluche. Ça, c'est la direction du Saint-Esprit. Hein. On n'avait pas parlé de peluche ce matin, j'avais pas de peluche prévue dans ma prédication. Et là, elle me balance une peluche à la louange. Je ne savais même pas que c'était elle. Elle m'a dit, Dani, il va y avoir une image. Je lui ai dit, oui, je te fais confiance. Alléluia. Mais finalement, c'est exactement ça. Voilà pourquoi Jésus veut remplir ta maison. L'objectif final, c'est cela. Alors, si je mets l'objectif final en image aussi, ça donne ça. Il n'y a pas de zone où je dis, Seigneur, domaine privé. Seigneur, tu ne rentres pas dans cette pièce. Il ne va pas se battre avec toi. Le Saint-Esprit ne va pas se battre avec toi. Il va te laisser ta petite peluche jusqu'à ce que tu la lui donnes. L'objectif de Dieu, c'est ça. Quand on met toute cette zone-là en texte biblique, ça donne ça. Par exemple, Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Ou encore, ça peut donner ça. Éphésiens 3, 19. Que nous puissions connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un autre petit encore ? Allez. Psaume 23 que tu connais bien. On aime beaucoup le psaume 23. Eh bien, ça, c'est aussi une partie du psaume 23. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, tu vas me dire, je ne vois pas le rapport là avec la plénitude là. Mais attends, pour qu'un truc déborde, il faut que tu le remplisses. On est d'accord ? Où que tu débordes, il faut que tu sois rempli. Ça, c'est l'autre objectif de Dieu aussi. Pas seulement que tu sois épanoui, accompli pleinement dans ta destinée, et ça, c'est déjà super, mais que tu débordes. On l'a tellement dit. Et si on en parle si souvent, c'est qu'il n'y a pas de deuxième option. Il n'y a pas de plan B. Enfin, il n'y en a qu'un. Je pourrais te citer aussi Jean 10, 10. Je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Ça, on l'a déjà dit 25 000 fois ici. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu. Quand l'Église primitive commence, dans la chambre haute, c'est la première chose que Dieu fait. D'ailleurs, Jésus va leur dire, attendez, calmez-vous. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus, remplis. Tout ça, c'est des termes similaires, c'est des synonymes de la puissance d'en haut, être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est tellement important dans la pensée de Dieu qu'on soit complètement envahi de sa personne pour vraiment être la personne que Dieu veut qu'on soit. Si tu veux, si on revient à ce schéma-là, si on en reste à ce schéma-là, c'est comme si... Alors, je suis sauvé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question de salut qui est en jeu ici, on est bien d'accord. Mais si j'en reste là avec ma vie, avec cette dimension, cette proportion, entre guillemets, de l'Esprit de Dieu habitant en moi, c'est comme si je suis épanoui, on va dire, allez, en proportion, là, ça fait quoi, 18%? Je suis à 18% d'atteindre l'objectif que Dieu avait pour ma vie. Ça te va, ça? Autrement dit, je passe à côté du... de la majeure partie de ce que Dieu avait pour moi. Parce que ça veut dire que tout le reste, c'est toi qui contrôles, avec tout le succès que tu connais. Avec toute la dextérité qu'on a pour contrôler et gérer les choses de notre vie. Voilà pourquoi Dieu veut prendre toute la place, c'est pour qu'on soit heureux. Et Dieu d'ailleurs, quand il dit « je veux prendre toute la place », c'est juste une façon de parler, mais Dieu ne prend que la place que tu lui donnes. Amen. Alléluia. Dieu ne prend rien du tout. Dieu reçoit. Il reçoit de ta main. On a deux. Il y en a plusieurs, mais j'en ai pris deux. Enfin, il y en a pas énormément. Mais dans la Bible, il y a deux moments où on voit Dieu en train de remplir ses enfants de sa personne, de son esprit, de sa gloire, de toutes les qualités qu'il y a en lui. Il y a deux endroits dans la Bible essentiellement où on voit ça. J'ai essayé de les prendre et on va s'en inspirer. Le moment qu'on connaît le mieux, c'est bien sûr celui qu'on a évoqué tout à l'heure. On va lire le passage et puis on va lire un deuxième passage. Le premier, c'est celui-ci. On le connaît, mais on va se le mettre en mémoire. Et on va avoir un temps de prière. On va se placer devant Dieu. On va être dans cette optique de dire, Seigneur, on veut que la même chose se passe dans nos vies. Je veux que la même chose se passe dans ma vie. Et c'est dans cette attitude-là. En fait, ce que je ressens vraiment dans mon cœur, c'est que Dieu veut nous maintenir dans une pensée qui devient comme un objectif ultime. L'objectif ultime de Dieu pour toi sur la terre, c'est d'être totalement rempli de lui. Il n'y a pas de niveau spirituel supérieur à celui-là. Et donc, comme c'est l'objectif de Dieu, il veut t'en parler, pour pas que tu t'installes dans les 18%. Tu comprends ce que je veux dire? Pour pas que ce soit juste l'entrée qui soit en orangé et puis que ça devienne une normalité. Même, bien-aimé, je vais te dire, si tu es baptisé du Saint-Esprit, alléluia! Hier soir, il y a eu des moments, il y en a qui ont été, plusieurs ont été touchés, il y en a, les cœurs ont été allégés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit va enlever des choses et des fois, c'est des choses qui ne sont pas faciles à ôter. Il les enlève et puis après, il prend la place. Il y en a plusieurs qui étaient en larmes, qui étaient bouleversés. Le Saint-Esprit commençait déjà à changer des choses en eux. On a eu un très bon moment hier soir. Mais même quand ce moment du baptême du Saint-Esprit il est achevé, ce n'est pas fini. Hein. En proportion, on va dire que c'est du 40%. C'est moi, hein. C'est pas écrit dans la Bible que le baptême du Saint-Esprit, c'est 40% du remplissage du récipient. Non, il n'y a pas de verset qui dit ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Il faut que la maison soit remplie. Alléluia. Alléluia. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis maintenant, je voudrais te faire lire un autre récit à peu près pareil. C'est un petit peu une effusion de l'esprit, mais mode Ancien Testament. Et tu vas voir que ça ressemble beaucoup. Lis avec moi. Après que Salomon a fini de prier, un feu descendu du ciel et brûle l'holocauste, ou l'offrande, si tu préfères, et les sacrifices de communion. Le Seigneur remplit le temple de sa gloire. Les prêtres ne peuvent pas entrer dans le temple parce que le Seigneur le remplit de sa gloire. C'est lourd, c'est pesant, c'est presque insupportable, comme je disais tout à l'heure. À un moment donné, tu vas t'asseoir parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Tous les Israélites qui sont là voient le feu descendre du ciel et la gloire du Seigneur brillait dans le temple. Il s'incline profondément, le front contre le sol, et il chante la louange du Seigneur. 2 Chroniques 7, verset 13. On est quasiment dans le même truc. Ce que j'aime avec ces deux passages, c'est qu'il relate des choses qui sont dans deux périodes différentes. Et on voit qu'il y a des choses, des similitudes. Quand Salomon a fini de prier, et donc dans la chambre haute, ben, ça faisait un moment qu'ils étaient là, qu'ils étaient eux aussi en train de prier et de chercher la face de Dieu. Et ils étaient là tous ensemble, on a lu tout à l'heure, hein. Ils étaient ensemble au même endroit. Ben, là aussi, ils sont un paquet, ils sont nombreux. Verset 3, tous les Israélites sont là et ils voient le feu, ils sont témoins, ils vivent quelque chose. Alors la différence, c'est qu'ils sont des témoins. Le feu n'est pas sur eux, comme dans la chambre haute. Et ce n'est pas eux qui sont remplis de la gloire. C'est le temple qui est rempli de la gloire. Et tu comprends pourquoi Dieu dit aujourd'hui, non, le temple, c'est toi. Et donc, c'est aujourd'hui, la gloire descend en toi. C'est génial quand même, hein? Tandis que là, ça descend dans le bâtiment. Et puis, autre chose, aussi, le feu. Un feu descend et brûle l'holocauste et les sacrifices. Et tu vas voir, pareil, il y a un feu qui descend. Des langues, verset 3, là on est dans les actes des apôtres, après la venue de Jésus, des langues qui semblaient de feu, leur apparurent séparées les unes des autres. Il y a du feu aussi qui descend. Mais là, il y a un truc qui se passe, et je voudrais que tu t'arrêtes avec moi dessus. Parce que le feu, là, il y a un truc différent qui se passe. Et ça mérite qu'on se penche dessus quand même. Après que Salomon a fini de prier, un feu descend du ciel. Et là, on sait ce que fait le feu. Dans l'autre texte, on n'a pas trop la description du pourquoi du feu. Et là, le feu brûle l'holocauste. Il consume l'holocauste. Donc, imagine que tu as un autel qui est là. On appelait ça un autel. C'est-à-dire une espèce de construction en pierre. Voilà. Et les gens, ils posent un animal dessus. Oh, tu me dis, c'est horrible ce truc, c'est quoi ce machin là, enfin, un animal dans le temple, c'est quoi ce truc? Ah oui, on est dans l'Ancien Testament. Et alors, pourquoi il y a un animal qui finit consumé par le feu? Ben, parce que les gens, que ce soit maintenant, que ce soit à l'époque, c'est un peu pareil. Hein. Ils aiment Jésus, mais de temps en temps, ça se passe mal. Il y a des trucs pas terribles en eux. Voilà, ils ont été grossiers, ils ont envoyé promener maman ce matin. Et puis, à l'école, ils ont frappé un gars. Tu vois, il y a toujours un truc tordu qui se passe, même si tu aimes Jésus. Et là, quand tu reviens devant Jésus, bah, tu ne peux pas revenir comme ça. Bonjour Seigneur. Il y a un truc à arranger, quoi. Tu ne peux pas arriver en sifflotant. Donc, là, il y a un animal qui est là, qui est mort. On l'a tué, égorgé. Pourquoi? Ben, c'est comme si on a transféré sur cet animal la responsabilité de la faute. C'est comme si cet animal-là devient le coupable. Et c'est Dieu qui avait instauré ce rituel parce que quand il y a expiation, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, quoi. Et c'est l'animal qui prenait. Et donc, il prenait cet animal et il dit, Seigneur, voilà, j'ai pris cet animal hein, qui était dans mon troupeau, hein, c'est tout ce que ça m'a coûté, et voilà, je le mets devant toi, mais c'est pour te montrer que voilà, je veux que tu me pardonnes. Et il y avait là cet animal qui représentait le péché de tout le peuple. Et Dieu, quand il descend, c'est la condition. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, il est saint. Même quand il dit qu'il vient faire sa demeure en toi, il ne met pas, comment dire, il ne s'assoit pas sous sa sainteté. Hein. Donc, Dieu descend et il dit, OK, pff, le feu descend. J'ai bien vu ce que tu as fait, je le consume. Et voilà, cet animal qui est consumé, pour moi, c'est la restauration de la relation entre toi et moi. Et Dieu disait, OK, c'est bon pour moi. Tu me suis là? Bien. Mais là, quand on arrive dans la chambre haute, tu te dis, mais enfin, il y a un feu qui descend, mais il n'y a rien qui se passe. Verset 3, Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Donc un feu individuel. Et elles se posent sur chacun d'eux. C'est que le rapport, c'est quoi le rapport là avec le sacrifice? Il n'y a pas de sacrifice. Il y a, ah si, il y en a un. Si, si, si. Tu ne le vois pas. Mais il est bien là. Regarde ce verset avec moi. Romains 12, verset 1. Paul dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Il est là, le sacrifice. Le sacrifice, c'est toi. Mais c'est toi qui l'offres. Pour quelles raisons ? Pour les mêmes raisons. Parce qu'il y a des combats dans ta vie. Beaucoup de combats, pas beaucoup de victoires. Parce qu'il y a des choses là, enfouies dans ton cœur, qui engendrent de la colère, quelque chose qui s'est passé, une injustice, quelque chose qui t'a brisé, quelque chose qui t'a broyé, quelque chose qui t'a engendré une colère sourde qui est là et qui démolit, qui ronge ta vie. C'est cela. Et ça, c'est comme si, c'est pas comme si, le Seigneur dit, prends cela et mets-le sur l'autel. Et là, tu le mets sur l'autel par ta bouche, parce que la Bible appelle la confession. Tu connais Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres. Mais c'est surtout à Dieu qu'on le confesse. Pour dire, Seigneur, débarrasse-moi de cette colère. Et eux, dans la chambre haute, ils sont restés 10 jours là. Que croyez-vous qu'ils ont fait? Ben, le Saint-Esprit les a conduits à voir les choses qui étaient là depuis trop longtemps, les choses avec lesquelles ils se battaient, les addictions, la pornographie, des comportements bizarres avec leur corps. Ils avaient comme une vie sexuelle en solitaire, personne ne le savait, des histoires secrètes qui sont là. Personne non plus ne le sait. Quelque chose qui s'est passé dans ton couple, personne ne le sait. Tout cela, le Seigneur leur dit, mettez ça en lumière et surtout, mettez-le sur l'autel. L'autel est invisible, mais je l'ai expliqué. Confesse-le-moi et puis tiens-toi devant moi. Et lorsque mon feu va descendre sur toi pour que je rentre dans la maison, devant l'endroit où je vais rentrer, il y a cet autel et je consume tout cela pour te dire, ça y est, je t'ai pardonné et je peux entrer dans la maison parce que la maison, elle est purifiée. Il n'y a rien de rédhibitoire. Il n'y a pas de trucs qui traînent dans les coins. Tu me les as donnés, donc je les consume. Ils ne sont plus là et moi, je peux installer dans la maison. Et toi, on peut commencer une relation extraordinaire, toi et moi. Et je peux te remplir. Te remplir, c'est-à-dire faire de toi une personne qui rayonne ma personne. Alléluia. C'est cela. On pourrait dire beaucoup de choses qu'on a déjà abordées ce matin, mais je ne vais pas trop m'alourdir. Nous sommes transformés de gloire en gloire. La gloire qui est descendue du temps de Salomon, comme on l'a lu tout à l'heure. Le temple rempli de sa gloire. Dieu veut que ta vie soit un reflet de sa gloire. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient remplis en tant que personnes de l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que dans le Nouveau Testament que ça arrive, depuis la Pentecôte. Mais dans l'Ancien Testament, il y en avait. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et un gars comme Moïse qui dirigeait tout le peuple de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Tu sais qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que lorsqu'il sortait du temple, et c'était même pas le temple à l'époque, c'était une tente, parce qu'ils étaient encore dans le désert. La Bible dit que lorsque Moïse sortait de la tente et qu'il avait parlé avec Dieu, qu'il avait échangé avec Dieu, qu'il avait prié, qu'il était resté là dans la présence de Dieu, quand il ressortait, les Israélites lui disaient, Moïse, c'est quoi qu'il y a avec toi là? Il y a une lumière qui est sur toi, qui n'était pas sur toi avant que tu rentres dans la tente. Qu'est-ce qui se passe? Et Moïse était un petit peu embêté parce qu'il ne pouvait pas leur expliquer, ben, tu comprends, ben, l'Esprit de Dieu, il est sur moi, mais pas sur toi. Donc, Moïse, il met un voile. Comme ça, il dit, voilà, il n'y a pas de problème, personne ne va rien me dire parce que les autres ne pouvaient pas être remplis. Aujourd'hui, tu es un Moïse. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi comme Moïse. Et le but, comme dit Paul, c'est pas de mettre un voile sur le visage. Au contraire, nous sommes tous à visage découvert. Parce que tout le monde doit savoir que nous rayonnons sa gloire. Je suis la gloire du roi des rois. Et il faut que tout le monde le sache. Parce qu'il a rempli ma maison. Parce qu'il a consumé l'offrande de désobéissance, de mensonges, de toutes sortes d'impuretés que j'avais avec mon corps, de tout ce que je n'arrivais pas à faire, de toutes mes colères, de toutes mes violences, de toutes mes paroles méchantes. Il a consumé tout cela. Et aujourd'hui, je suis content de briller pour sa gloire. Il est en moi. Alléluia. C'est ça le but. Moïse, il était tellement rempli que les gens le voyaient. Et il disait, mais il y a une lumière en lui. Il faut qu'on voit la lumière de Dieu sur toi. C'est ça qui va changer le monde. C'est ça qui va changer ton entourage. C'est pour ça qu'il faut que ta coupe déborde. Moïse était tellement rempli de Dieu qu'il rayonnait la personne de Dieu. Il faut que tu rayonnes Jésus. Si tu veux que ton mari, que ta femme qui ne connaît pas Jésus se convertisse, il faut que tu rayonnes Jésus un peu plus. La seule façon de bien rayonner Jésus, c'est d'en être rempli. Pas à 18%, 40%, 70%, mais à 100%. Il faut que la langue de feu descende sur toi et consume tout ce qui est dur à consumer en toi. Amen. Je voudrais qu'on incline nos fronts maintenant. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Et puis, on va prendre un temps devant Dieu, bien-aimé. Réfléchis. Réfléchis pendant ce petit temps. Qu'est-ce que tu vas mettre sur l'autel? On a dit que lorsque le Saint-Esprit descend, plus il entre dans la maison, plus il y a un échange qui se fait, ou plutôt une espèce de transaction. Il y a des choses qui disparaissent pendant que lui prend plus de place. Et tout ce qui disparaît finit sur l'autel. Et au fur et à mesure qu'on met des choses sur l'autel, ben Dieu les prend. C'est ce qui est rendu par le feu qui descend et qui consume tout ce qu'il y a sur l'autel. Donc, il n'y a pas de feu qui descend s'il n'y a rien sur l'autel, en fait, si on comprend bien. Donc, en clair, si je veux que, peut-être que tu dis depuis un moment, Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit augmente le taux de sa présence en moi, que ça passe du 18% fondamental et syndical pour devenir du 38, 40, 50%. Et tu as du mal à atteindre cet objectif du baptême du Saint-Esprit. Alors, peut-être qu'il est temps de regarder qu'est-ce que tu as mis sur la table, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as posé sur l'autel des offrandes? Salomon avait posé un animal là qui symbolisait l'expiation de toutes les bêtises du peuple. Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel? Qu'est-ce que tu confesses à Dieu ce matin qui justifie qu'il puisse venir prendre plus de place en toi? Il y a une transaction, qui c'est pas beau le mot transaction, mais c'est pour que tu comprennes. Il y a un échange. S'il n'y a rien à consumer, ben, il n'y a rien qui va se passer. Tout à l'heure, je vais t'appeler pour que tu viennes devant et on va prier pour toi avec les frères, avec les anciens, avec les leaders. Jeune, que tu sois jeune, ado, plus âgé, pour que Dieu prenne une place plus grande dans ta vie. Mais pendant ce temps qu'on va avoir avec le chant, l'équipe de louanges va chanter, on reste recueilli, et puis regarde au fond de toi-même. Essaie de sortir des choses pour les mettre sur l'autel. parce qu'il faut que le feu du Saint-Esprit trouve quelque chose à consumer. Et en échange de cette chose, il prendra plus de place en toi. Amen.
Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi.